Chapitre 50. Environ de San Juan Capistrano, samedi 25 avril 1981. Saul et Nathalie avaient à peine roulé un quart d'heure lorsqu'ils virent le premier barrage. Une voiture de police était garée en travers de la chaussée, sur laquelle des signaux lumineux canalisaient la circulation. Quatre véhicules étaient stoppés sur la voie de droite, trois autres en sens inverse. Nathalie rangea la fourgonnette sur le bas-côté, au sommet d'une colline située à 400 mètres du barrage. « Un accident ?» dit-elle. « Ça m'étonnerait. Fais demi-tour, vite !» Ils refranchirent le petit col qu'ils venaient de négocier. « On remonte le canyon jusqu'au point de départ ?» dit Nathalie. « Non. Il y avait une piste à environ 3 kilomètres d'ici. Celle du terrain de camping ? Non, un peu plus loin en direction du sud. Peut-être qu'elle nous permettra de contourner le barrage. Tu crois que le policier nous a vus ? Je ne sais pas. » Saul attrapa un carton derrière son siège, en sortit le pistolet automatique Colt et s'assura qu'il était bien chargé. Nathalie trouva la piste et la fourgonnette tourna à gauche, traversant des bosquets de pins et quelques prés verdoyants. Ils durent se ranger pour laisser passer un break tractant une petite caravane. Plusieurs chemins donnaient sur la piste qu'ils suivaient, mais ils semblaient trop étroits et trop peu fréquentés pour déboucher sur une route. Nathalie continua de rouler sur le coupe-feu, qui devint bientôt une piste de terre battue tortueuse. Ils aperçurent une voiture de police garée dans une clairière, 200 mètres plus bas, alors qu'ils négociaient une série de lacets sur le flanc d'une colline boisée. Nathalie fit halte dès qu'elle se fut assurée que la fourgonnette était invisible. « Merde !» s'exclama-t-elle. « Il ne nous a pas vus, » dit Saul. « C'est un shérif ou un adjoint. Il est descendu de voiture, et je l'ai aperçu en train de regarder dans l'autre direction avec ses jumelles. Il nous verra si nous décidons de rebrousser chemin. La route est si étroite que je serai obligé de rouler en marche arrière jusqu'au troisième virage. Merde !» Saul réfléchit durant une minute. « Ne fais pas demi-tour. Continue à descendre et voyons ce qui se passe. »« Mais il va nous arrêter. » Saul fouilla le compartiment arrière jusqu'à ce qu'il ait retrouvé son passe-montagne et son pistolet à fléchette. « Je vais descendre. Si ce n'est pas nous qu'il cherche, je te retrouverai de l'autre côté de la clairière, là où la route oblique vers l'est pour gravir la colline. Et si c'est nous qu'il cherche, alors je te retrouverai plus tôt. Je suis pratiquement sûr que ce type est tout seul. Peut-être qu'on va savoir ce qui se passe dans le coin. Et s'il veut fouiller la fourgonnette? Laisse-le faire. Je vais tâcher de m'approcher le plus possible, mais occupe-le le temps que je traverse la clairière. J'arriverai par le sud, à gauche de la fourgonnette si possible. Saul, ce n'est sûrement pas l'un d'entre eux, n'est-ce pas? Ça me semble peu probable. Ils ont dû demander l'aide des autorités locales. C'est donc un innocent. Saul acquiesça. Par conséquent, nous devons veiller à ce qu'il ne lui arrive aucun mal. Et à nous non plus. Il examina le flanc boisé de la colline. Donne-moi 5 minutes pour me mettre en position. Nathalie posa une main sur la sienne. Sois prudent, Saul. Il n'y a plus que nous deux maintenant. Il tapota ses minces doigts à la peau si fraîche, hocha la tête, prit son attirail et se dirigea vers les arbres à pas de loup. Nathalie attendit 6 minutes, puis démarra et descendit la pente à faible allure. L'homme adossé à la bronco portant l'emblème du comté sembla surpris lorsqu'elle pénétra dans la clairière. Il dégaina son pistolet et cala son bras droit sur le capot pour mieux viser. Lorsque la fourgonnette arriva à 6 mètres de lui, il porta à ses lèvres le mégaphone électrique qu'il tenait de la main gauche. « Halte !» Nathalie serra le frein à main et leva les mains au-dessus du volant pour qu'il les voie bien. « Coupez le moteur ! Descendez de voiture ! Gardez les mains en l'air !» Elle sentit son cœur battre dans sa gorge lorsqu'elle coupa le contact et ouvrit la portière. Le shérif, ou le shérif adjoint, semblait très nerveux. Lorsqu'elle s'immobilisa les mains en l'air près de la fourgonnette, il jeta un regard sur la bronco, comme s'il avait voulu lancer un appel radio, mais hésitait à lâcher armes et mégaphone. « Que se passe-t-il, shérif ? » demanda-t-elle. Elle se sentait toute drôle en prononçant le mot de shérif. Cet homme ne ressemblait pas le moins du monde à Rob. Il était grand, mince, âgé d'une cinquantaine d'années, et son visage était sillonné de rides, comme s'il avait passé sa vie à regarder le soleil en face. « Silence ! Éloignez-vous du véhicule ! C'est ça ! Gardez les mains derrière la nuque ! Maintenant, couchez-vous par terre ! Couchez-vous, j'ai dit, à plat ventre !» Une fois étendue sur l'herbe jaune, Nathalie demanda « Que se passe-t-il? Qu'est-ce que j'ai fait ? » « Taisez-vous ! Le passager maintenant, dehors, tout de suite !» Nathalie essaya de sourire. « Je suis toute seule, monsieur. Écoutez, c'est sûrement une erreur. Je n'ai jamais eu à payer d'amende de ma... Silence !» Le policier hésita une seconde, puis posa le mégaphone sur le capot de sa voiture. Nathalie remarqua son air penaud. Il jeta un nouveau coup d'œil en direction de la radio, sembla se décider, et fit le tour de la bronco d'un pas vif, gardant son revolver braqué sur Nathalie, tout en jetant des regards nerveux en direction de la fourgonnette. « Ne bougez pas d'un pouce !» cria-t-il en arrivant près de la portière ouverte. « S'il y a quelqu'un là-dedans, vous avez intérêt à lui dire de sortir en vitesse. »«
Je suis toute seule, je vous dis. Que se passe-t-il? Je n'ai rien. Taisez-vous !»
Soudain, le shérif adjoint plongea maladroitement sur le siège de la fourgonnette, braqua son arme vers le compartiment arrière et se détendit quelque peu. Sans quitter le véhicule, il visa de nouveau Nathalie.
« Si vous bougez d'un pouce, mamselle, je vous découpe en morceaux. »
Nathalie resta allongée dans une position inconfortable, les coudes dans la poussière, les mains derrière la nuque, et regarda par-dessus son épaule en direction du policier élancé. L'arme qu'il braquait sur elle lui paraissait énorme. Sa colonne vertébrale se tendait déjà dans l'attente de la balle qui transpercerait sa chair. Et si c'était l'un d'eux ?
Les mains derrière le dos ! Exécution !
Dès que les mains de Nathalie se furent croisées sur ses reins, le policier se pencha sur elle et lui passa les menottes. La joue de Nathalie tomba sur le sol et elle avala une bouffée de poussière.
« Vous ne me faites même pas la lecture de mes droits ? »
dit-elle, sentant l'adrénaline et la colère commencer à chasser la peur qui la paralysait.
« Au diable vos droits, mamselle ! »
dit le shérif adjoint en se redressant, de toute évidence beaucoup plus rassuré. Il rengaina son pistolet à canon long.
« Debout ! On va appeler le FBI, et on verra bien ce qui se passe ici.
« Bonne idée !»
dit une voix étouffée derrière eux. Nathalie roula sur le flanc et découvrit Saul près de la fourgonnette, passe-montagne sur la tête et lunettes à verre réfléchissant sur les yeux. Il brandissait l'automatique Colt de la main droite et tenait dans la gauche le pistolet à fléchette.
« N'essayez même pas d'y penser !» dit sèchement Saul comme le shérif adjoint se figeait, la main sur la crosse de son arme.
Nathalie regarda le Colt, le masque noir, les disques argentés des lunettes de Saul, et se sentit elle-même effrayée.
« Par terre, à plat ventre ! Exécution !»
Le policier sembla hésiter, et Nathalie comprit que sa vanité entrait en conflit avec son instinct de conservation. Saul asserra une balle dans le canon, arma son Colt avec un déclic parfaitement audible. Le policier se mit à genoux et s'étendit à plat ventre sur le sol. Nathalie roula sur elle-même et observa la suite des événements. La situation était dangereuse. Le pistolet du shérif adjoint était encore dans son étui. Saul aurait dû lui ordonner de le jeter avant de s'allonger à terre. À présent, Saul serait obligé de se mettre à sa portée pour le lui prendre.
« Nous ne sommes que des amateurs, » pensa-t-elle.
Elle espéra que Saul se contenterait de lui planter une fléchette dans le postérieur et d'en rester là. Mais Saul avança d'un pas vif vers le policier, posa un genou au creux de ses reins, lui coupant le souffle, et lui pressa le visage contre le sol avec le canon de son arme. Puis il jeta le pistolet du policier à 3 mètres de là
et lança un trousseau de clés à Nathalie. « Il y a sûrement celle de tes menottes dans l'eau, » lui dit-il.
« Merci mille fois. »
Nathalie se contorsionna pour faire passer ses mains sous ses fesses et ses jambes entre ses bras.
« À nous deux, »
dit Saul au policier en accentuant la pression de son arme. « Qui a organisé ces barrages routiers ?»«
Allez au diable !»
Saul se redressa vivement, recula de 4 pas, et tira une balle dans le sol, à 10 centimètres du visage du policier. Surprise, Nathalie lâcha les clés.
« Mauvaise réponse !» reprit Saul.
« Je ne vous demande pas de me révéler un secret d'État. Je veux seulement savoir qui a autorisé ces barrages. Si je n'ai pas une réponse dans 5 secondes, je vous loge une balle dans le pied gauche, et je remonte le long de votre jambe jusqu'à ce que vous parliez.
1. 2. Espèce de salaud. 3. 4. Un agent du FBI.
Soyez plus précis, comment s'appelle-t-il?
Je ne sais pas.
1, 2, 3.
Haynes! Un agent qui vient de Washington. J'ai reçu un message radio il y a 20 minutes.
Où se trouve Haynes en ce moment?
Je ne sais pas, je le jure.
La seconde balle souleva un nuage de poussière entre les longues jambes du shérif adjoint. Nathalie inséra la plus petite des clés dans les menottes qui s'ouvrirent aussitôt. Elle se frictionna les poignets, puis courut récupérer l'arme du policier.
« Il est à bord de l'hélicoptère de Steve Gorman, » dit celui-ci. « Il vole au-dessus de la route. »
« Haynes vous a-t-il donné le signalement des occupants de la fourgonnette ou seulement celui du véhicule ?» Le policier leva la tête et les regarda en plissant les yeux.
« Les deux. Une fille de race noire âgée d'une 20aine d'années accompagnée d'un homme de race blanche. »
« Vous mentez, » dit Saul.
« Vous n'auriez jamais osé vous approcher de la fourgonnette si vous aviez su qu'on recherchait 2 personnes. »«
De quoi Haynes nous accuse-t-il ?» Le policier marmonna quelque chose.
« Plus fort !» ordonna sèchement Saul. « D'être des terroristes !»
répéta le shérif adjoint d'une voix maussade.
« Des terroristes internationaux !»
Saul éclata de rire derrière le tissu noir de son masque.
« Il n'a pas tort !»«
Les mains derrière le dos, député !» Les verts réfléchissants se tournèrent vers Nathalie.
« Passe-lui les menottes. Donne-moi son arme. « Reste sur le côté. S'il essaie de se jeter sur moi, je serai obligé de le tuer. »
Nathalie referma les menottes autour des poignets du policier, puis recula. Saul lui rendit l'arme confisquée.
« Nous allons lancer un appel radio, député. Je vais vous dicter le message. Vous avez le choix entre mourir tout de suite ou appeler la cavalerie et espérer être sauvé. »
Une fois l'appel bidon lancé, Nathalie et Saul conduisirent le policier sur le versant de la colline qui dominait la clairière côté sud et l'attachèrent au tronc d'un petit pin. 2 arbres étaient tombés l'un sur l'autre, le tronc du plus grand reposant sur un rocher haut d'1,20 m. Les branches proliférantes dissimulaient la roche et fournissaient un excellent abri à qui souhaitait observer la clairière située 60 mètres en contrebas.
« Reste ici, » dit Saul.
Je redescends chercher le pantobarbital et les seringues. Ensuite, j'irai récupérer le fusil dans la bronco.
« Mais ils vont arriver, Saul! Haynes sera bientôt là! Utilise le pistolet à fléchette !»«
Je ne suis pas satisfait de cette drogue. Ton pouls était trop précipité quand je t'en ai injecté une dose. Si ce pauvre diable a des problèmes cardiaques, il risque de ne pas supporter le choc.
Reste ici, je reviens tout de suite. »
Nathalie s'accroupit derrière le rocher, tandis que Saul courait vers la bronco, puis disparaissait dans la fourgonnette.
« Vous êtes dans la merde, mademoiselle !» souffla le shérif adjoint. « Enlevez-moi les menottes, rendez-moi mon arme, et vous avez encore une chance de vous en sortir vivante.
« Fermez-la !» murmura Nathalie. Saul gravissait la pente en courant, tenant un fusil, un mégaphone et un petit sac à dos bleu. Elle entendit un bruit de rotor au loin. Un bruit qui se rapprochait. Loin d'être effrayée, elle se sentait terriblement excitée. Nathalie posa l'arme du policier par terre et dégagea le cran de sûreté du Colt que lui avait laissé Saul.
Elle cala ses deux mains sur le rocher pour s'entraîner à viser la fourgonnette, dont les portières arrière étaient maintenant ouvertes, tout en sachant que sa cible était beaucoup trop éloignée. Saul s'engouffra dans le rideau de branches et d'aiguilles de pin au moment précis où l'hélicoptère apparaissait au-dessus de la crête derrière eux. Il s'accroupit, haletant, remplit une seringue et une bouteille. Le policier jura et protesta lorsqu'il lui fit une piqûre, se débattit quelques instants, puis s'effondra anesthésié. Saul ôta son passe-montagne et ses lunettes. L'hélicoptère perdit de l'altitude pour décrire un nouveau cercle autour de la clairière, et Saul et Nathalie se tapirent sous la voûte de branches. Saul vida son sac à dos, attrapa une boîte rouge et blanc, et en sortit des cartouches à chemise de cuivre, qu'il inséra une par une dans le fusil du policier.
Nathalie, je m'excuse de ne pas t'avoir consulté avant de prendre ma décision. Je ne pouvais pas laisser passer cette occasion.
Haynes est enfin à ma portée.
Hey, c'est pas grave.
Elle était trop excitée pour rester en place, ne cessait de passer de la position à genoux à la position accroupie. Elle s'humecta les lèvres.
Saul, c'est le pied!
Saul la regarda fixement.
Je veux dire, je sais que c'est terrifiant et tout ça, mais c'est aussi terriblement excitant. On va abattre ce type et ensuite on fichera le camp et... Aïe!
Saul avait agrippé son épaule et la serrait fort. Il posa le fusil contre le rocher et plaqua la main droite sur son autre épaule.
Nathalie, en ce moment nos organismes sont saturés d'adrénaline. Ça te semble terriblement excitant. Mais on n'est pas à la télévision. Les acteurs ne vont pas se relever pour aller boire un café après la fusillade. Quelqu'un va être blessé dans les minutes qui viennent, et ça ne sera pas plus excitant que ce qui suit un accident de la route.
Concentre-toi. Que l'accident arrive à quelqu'un d'autre. Nathalie hocha la tête. L'hélicoptère décrivit un dernier cercle, disparut quelques instants derrière la crête sud, puis revint pour se poser dans un nuage de poussière et d'aiguilles de pin. Nathalie se coucha à plat ventre et cala son épaule contre le rocher, tandis que Saul s'étendait, le fusil à l'épaule. Saul inspira le parfum de la résine et du sol cuit par le soleil, et pensa à un autre lieu, à un autre moment. Après s'être évadé de Sobibor en octobre 1944, il avait rejoint les rangs d'un groupe de partisans juifs baptisé Chil, qui opérait dans la forêt des Hiboux. En décembre, avant qu'il ne devienne l'assistant du médecin, on lui avait donné un fusil, et on lui avait ordonné de monter la garde. C'était par une nuit froide et claire. La pleine lune bariolait la neige de bleu, et un soldat allemand avait pénétré en vacillant dans la clairière où Saul s'était posté. Ce soldat n'était qu'un adolescent, dépourvu de casque comme de fusil. Son crâne et ses mains étaient enveloppés de chiffons, ses joues blanchies par les engelures. En voyant les insignes de son régiment, Saul l'avait aussitôt identifié comme un déserteur. 8 jours auparavant, l'armée rouge avait lancé une offensive d'envergure dans la région. Et même s'il devait s'écouler encore 10 semaines avant la défaite totale de la Wehrmacht, ce jeune homme avait décidé de battre en retraite, à l'exemple de plusieurs centaines de ses camarades. Yekiel Greenspan, le leader du Chil, avait donné des instructions précises en ce qui concernait les déserteurs allemands. Ils devaient être abattus et leurs corps jetés dans le fleuve ou laissés sur place. Inutile de prendre la peine de les interroger. Seule entorse à cette règle, s'abstenir de tirer si l'on risquait de révéler la position des partisans aux rares patrouilles allemandes. La sentinelle devait alors poignarder le déserteur ou le laisser passer. Saul avait lancé un « Qui va là ?» Il aurait pu tirer. Le groupe dont il faisait partie s'était abrité dans une caverne à plusieurs centaines de mètres de là. Il n'y avait aucune activité allemande dans les parages. Mais il avait lancé une sommation à l'allemand au lieu de lui tirer dessus. Le garçon était tombé à genoux dans la neige et s'était mis à pleurer, suppliant Saul en allemand. Saul avait contourné sa position
jusqu'à ce que le canon de son antique Mauser ne soit plus qu'à moins d'un mètre de la tête blonde. À ce moment-là, Saul avait pensé à la fosse, au corps blanc qui tombait en avalanche, à l'emplâtre collé sur la joue du sergent de la Wehrmacht qui fumait une cigarette en balançant les jambes au-dessus de l'horreur. Le garçon pleurait. Le givre luisait sur ses longs cils. Saul avait levé son Mauser, puis il avait reculé d'un pas et dit en polonais « Va-t'en !» Regardant le jeune Allemand lui lancer un coup d'œil incrédule, puis ramper dans la clairière et s'enfuir en trébuchant. Le lendemain, alors que le groupe se dirigeait vers le sud, ils avaient trouvé le corps gelé du garçon gisant à plat ventre dans la rivière. Ce même jour, Saul était allé voir Greenspan et lui avait demandé de le nommer aide-soignant auprès du docteur Jastik. Le leader du Chil l'avait regardé un long moment avant de lui répondre. Les partisans n'avaient que faire d'un juif qui ne voulait pas ou ne pouvait pas tuer les Allemands, mais Greenspan savait que Saul était un survivant de Chełmno et de Sobibor. Il avait accepté. Saul était reparti à la guerre, en 1948, en 1956, en 1967, seulement pour quelques heures, et en 1973. Chaque fois, ça avait été en tant que médecin. À l'exception des heures horribles où il avait traqué Der Alte sous le contrôle de l'Oberst, Saul n'avait jamais tué un être humain. À plat ventre sur un tapis d'aiguilles de pin chauffé par le soleil, Saul regarda sa montre au moment où l'hélicoptère se posait. Le pilote avait choisi le côté sud de la clairière et son appareil était en partie occulté par la bronco du shérif adjoint. Le fusil de celui-ci était un vieux modèle. Crosse en bois, levier d'éjection manuel, guidon tout simple. Saul ajusta ses lunettes et regretta de ne pas avoir un viseur télescopique. Il avait réussi à ignorer tous les conseils dispensés par Jack Cohen. Son arme lui était peu familière, il ne s'en était jamais servi, son champ de tir était encombré et il n'avait aucune issue de secours. Saul pensa à Aaron, à Déborah et aux jumelles, et il introduisit une balle dans la chambre. Le pilote descendit le premier et s'écarta lentement de l'hélicoptère. Saul en fut surpris et contrarié. L'homme qui restait dans la cabine était armé d'un fusil automatique et portait des lunettes noires, une casquette à large visière et une veste épaisse. À 60 mètres de distance, gêné par le soleil qui se reflétait sur le pare-brise de l'hélicoptère, Saul ne pouvait être sûr qu'il s'agissait de Richard Haynes. Il n'ouvrit pas le feu. Puis il sentit la nausée monter dans sa gorge, persuadé qu'il avait commis une grave erreur. Il avait entendu Haynes appeler Swanson par radio, lorsqu'il était allé récupérer le fusil dans la bronco. C'était forcément Haynes. Mais il suffisait à l'agent du FBI de se planquer et d'attendre l'arrivée des renforts. Saul posa le mégaphone près de sa main gauche et visa une nouvelle fois. L'homme au gilet pare-balles choisit cet instant pour bouger, courant le dos courbé pour s'abriter derrière la bronco. Saul n'eut pas le temps de tirer, mais il reconnut ses mâchoires fortes et ses cheveux soigneusement coiffés. C'était bien Richard Haynes qu'il avait devant lui.
« Où est-il ? »
murmura Nathalie.
« Chut ! Derrière la fourgonnette à présent. Il a un fusil, reste planqué !»
Il posa le mégaphone devant lui, vérifia qu'il était allumé et serra son arme des deux mains. Le pilote appela Haynes, et celui-ci lui répondit depuis la fourgonnette. Le pilote se dirigea lentement vers l'hélicoptère, et 5 secondes plus tard, l'agent fédéral apparut et se mit à courir.
« Haynes !»
Nathalie sursauta en entendant la voix amplifiée de Saul, dont la colline opposée leur renvoya l'écho. Le pilote se précipita vers les arbres et la silhouette en gilet pare-balles pivota sur elle-même, mit un genou à terre et commença à arroser le versant de la colline en tir automatique. Le bruit des détonations parut dérisoire à Saul. Un projectile traversa les branches en geignant 2 mètres au-dessus d'eux. Saul serra la poignée poisseuse contre sa joue, visa et tira.
Sous l'effet du recul, la crosse lui heurta l'épaule avec une force surprenante. Haynes était toujours debout, toujours en train de tirer, balayant la colline du feu meurtrier de son M16. Deux balles atteignirent le rocher devant Saul, et une troisième s'encastra dans le tronc au-dessus de lui, avec un bruit de hache fendant le bois. Saul regretta de ne pas avoir mieux abrité le shérif adjoint. Il avait vu les aiguilles de pin sauter en l'air devant Haynes, un peu sur sa gauche. Il leva à nouveau son arme pour viser, et aperçut à la lisière de son champ de vision le pilote qui se réfugiait parmi les arbres. Saul vit le canon du M16 cracher ses flammes. Une dernière salve atteignit le rocher derrière lequel Nathalie s'était recroquevillée en position fœtale, puis il y eut un silence soudain. Haynes éjecta le chargeur vide, en attrapa un autre dans la poche de son gilet, et Saul, après avoir soigneusement visé, lui tira dessus. Un câble invisible sembla tirer l'agent spécial en arrière. Ses lunettes de soleil et sa casquette s'envolèrent, et il atterrit sur le dos, les jambes écartées, le fusil à 2 mètres de sa tête. Le silence était assourdissant. Nathalie s'était redressée sur ses genoux et regardait par-dessus le rocher, le souffle court.
« Oh Seigneur !» murmura-t-elle.
« Est-ce que ça va ?»«
Ouais. Reste ici. »
« Pas question !» Elle se leva en même temps que lui et descendit sur ses talons. Ils avaient parcouru 12 mètres lorsque Haynes roula sur lui-même, se mit à genoux, récupéra son fusil et fonça vers les arbres de l'autre côté. Saul mit un genou à terre, tira, rata.
« Merde ! Par ici !»
Il entraîna Nathalie sur leur gauche, à travers les broussailles.
« Les autres vont arriver !»
halta Nathalie.
« Oui. Pas un bruit. »
Ils continuèrent leur route, avançant d'arbre en arbre. Le versant de la colline d'en face était trop dénudé pour que Haynes aille dans la même direction. Il était obligé de rester planqué ou de se diriger vers eux. Saul se demanda si le pilote était armé. Saul et Nathalie progressèrent le plus rapidement possible, s'abritant derrière les arbres et veillant à ne pas s'approcher de la clairière. Alors qu'ils arrivaient à l'endroit où Haynes avait pénétré dans la forêt, Saul fit signe à Nathalie de se planquer dans un petit bosquet et continua d'avancer à croupetons, regardant constamment à droite et à gauche. Ses munitions tintaient dans les poches de sa veste de sport. Il commençait à faire noir sous les arbres. Les moustiques faisaient leur apparition, bourdonnant autour de son visage en sueur. Il avait l'impression que plusieurs heures s'étaient écoulées depuis l'arrivée de l'hélicoptère. Un coup d'œil à sa montre lui apprit que 6 minutes avaient passé. Un éclat dans un rectangle de lumière sur le sol d'aiguilles sombres. Saul tomba à plat ventre et avança en rampant. Il stoppa, saisit le fusil de la main gauche et tendit la droite pour toucher le sang qui avait aspergé terre et aiguilles. D'autres taches étaient visibles sur sa gauche, avant de disparaître dans l'épaisseur de la végétation. Saul avait commencé à reculer, lorsqu'éclata derrière lui, légèrement sur sa gauche, un tir d'arme automatique tonitruant, affolé, qui n'avait plus rien de ridicule. Il pressa sa joue contre le sol, ordonnant à son corps de s'enfoncer dans la terre, tandis que les balles déchiraient les branches, lacéraient les troncs et traversaient la clairière en geignant. Il entendit au moins 2 impacts métalliques, mais ne leva pas la tête pour voir quel véhicule avait été touché. Un cri horrible à environ 10 mètres de lui, puis un gémissement sourd qui sembla monter vers les ultrasons. Saul se redressa d'un bond et courut sur sa gauche, rattrapant ses lunettes lorsqu'une branche les lui arracha, manquant de s'effondrer sur Nathalie qui s'était abritée derrière une souche pourrie. Il se jeta à plat ventre près d'elle et murmura
« Ça va ?»
« Oui. »
Elle indiqua de son arme un bosquet de jeunes pins et d'épicéas, dissimulant à moitié une ravine sur leur gauche.
« Ça venait de par là. Ce n'était pas nous qu'ils visaient. »
« Non. »
Saul examina ses lunettes. La monture était tordue. Il tapota les poches de sa veste. Les cartouches tintèrent. Le pistolet était toujours dans sa poche gauche. Ses coudes étaient maculés de boue.
« Allons-y. »
Ils avancèrent en rampant. Nathalie à 3 mètres sur la droite de Saul. Lorsqu'ils approchèrent du petit ruisseau qui coulait dans la ravine, les broussailles se firent plus denses, et ils virent de jeunes pousses d'épicéas et de sapins, des groupes de bouleaux et des bouquets de fougères. Ce fut Nathalie qui trouva le pilote. Elle faillit poser le bras sur sa poitrine en contournant un gros genévrier. Il avait presque été coupé en deux par le tir automatique du M16. Ses abdominaux étaient réduits en lambeaux écarlates, et ses doigts étaient crispés autour des cordons gris et blancs de ses intestins, comme s'il avait essayé de les remettre en place. La tête du petit homme était rejetée en arrière. Sa bouche était grande ouverte sur un cri interrompu, ses yeux vitreux fixés sur une petite parcelle de ciel bleu entre les frondaisons. Nathalie se retourna et vomit en silence sur les fougères.
« Viens, » murmura Saul.
Le ruisseau faisait assez de bruit pour couvrir sa voix. Ils virent des petits astérisques de sang sur un tronc abattu derrière un rideau d'épicéas. Haynes avait dû se planquer là quelques minutes plus tôt, puis il avait entendu le pilote avancer parmi les broussailles en quête d'un abri. Saul scruta la forêt. Où était parti Haynes? À gauche, au-delà d'un espace dégagé de 7 mètres de long, la lisière de la dense forêt qui emplissait la vallée et s'étendait de l'autre côté de la colline en direction du sud-ouest. À droite, la ravine peuplée d'arbustes, qui s'étrécissait 40 mètres plus haut, pour disparaître derrière un bosquet de genévriers. Saul devait se décider. En choisissant une direction, il s'exposerait au tir de son ennemi si celui-ci avait opté pour l'autre. La clairière se trouvait à sa gauche, et il décréta que Haynes avait préféré l'éviter et prendre à droite. Saul recula et tendit son fusil à Nathalie, collant sa bouche à son oreille pour lui murmurer
« Je vais là-haut. Planque-toi sous le tronc. Donne-moi 4 minutes précises, puis tire une balle en l'air. Si tu n'entends rien, attends encore 1 minute et tire encore une fois. Si je ne suis pas revenu dans 10 minutes, retourne à la fourgonnette et fous le camp d'ici. Il ne peut pas voir la route depuis là-haut. Tu as compris? Oui. Tu as toujours ton passeport. Si ça tourne mal, utilise-le pour regagner Israël. »
Nathalie ne dit rien. Elle était très tendue, mais le pli de ses lèvres était ferme et résolu. Saul lui adressa un hochement de tête et traversa le rideau d'épicéas en rampant, gravissant la pente sans s'écarter du ruisseau. Il sentit une odeur de sang. Il vit de nouvelles taches rouges en se faufilant dans les tunnels qui couraient entre les genévriers. Il se déplaçait trop lentement. 3 minutes s'étaient écoulées et il était encore trop près de la ravine. Sa main droite était poisseuse de sueur autour de la crosse du Colt, et ses lunettes ne cessaient de glisser sur son nez. Ses coudes et ses genoux lui faisaient mal. Il respirait avec difficulté. Des mouches attirées par une constellation de sang vinrent lui effleurer le visage. Plus que 30 secondes. Haynes n'était sûrement plus très loin, sauf s'il avait couru. Il en était bien capable. La portée du M16 était 20 fois supérieure à celle du pistolet de Saul. Celui-ci contenait 8 balles, y compris celle qui était déjà logée dans la chambre. Les poches de Saul étaient emplies de munitions destinées au fusil du policier, mais il avait laissé les 3 chargeurs de rechange du Colt près du tronc d'arbre auquel il avait attaché le shérif adjoint. Peu importait. Plus que 20 secondes avant le coup de feu. Ça ne servirait à rien s'il était trop loin de sa proie. Saul rampa sur les coudes et sur les genoux, haletant, conscient du bruit qu'il faisait. Il tomba en avant sous une branche de genévrier et ouvrit la bouche pour respirer, essaya de contrôler son souffle. Les échos de la détonation résonnèrent dans la ravine. Saul roula sur le dos, se plaquant le bras sur la bouche pour étouffer le bruit de son souffle. Rien. Ni coup de feu, ni mouvement au-dessus de lui. Il resta étendu, le pistolet près du visage, sachant qu'il devait continuer d'avancer, de gravir le flanc de la colline. Il resta immobile. Le ciel s'assombrissait.
La lueur rosée du crépuscule se refléta sur un groupe de Cyrus et une étoile scintilla au-dessus de la ravine. Saul leva la main gauche pour regarder sa montre. 12 minutes s'étaient écoulées depuis l'arrivée de l'hélicoptère. Saul inspira l'air frais, sentit l'odeur du sang. Cela faisait trop longtemps que Nathalie avait tiré. Saul levait à nouveau la main gauche lorsque retentit la seconde détonation, plus près cette fois-ci. La balle ricocha sur un rocher 10 mètres au-dessus de la ravine. Richard Haynes jaillit des broussailles, à 2 mètres et quelques de Saul, et arrosa la ravine en tir automatique. Saul vit le canon cracher le feu et sentit une odeur de poudre. La salve déchiqueta le buisson qu'il venait de traverser. Les arbustes au tronc épais de 5 centimètres étaient fauchés par une faux invisible. Les balles s'écrasaient sur les rochers de la rive est, labouraient les fourrés de la rive ouest et soulevaient la terre en contrebas. L'air était imprégné d'un parfum de résine et de poudre. Haynes tirait, tirait, tirait. Lorsque le silence se fit, Saul était si engourdi qu'il mit 2 ou 3 secondes à réagir. Il entendit un cliquetis lorsque Haynes éjecta le chargeur vide du M16, un claquement sec lorsqu'il en inséra un autre. Les brindilles craquèrent lorsque l'agent spécial se redressa. Puis Saul se mit debout, vit Haynes à moins de 3 mètres de lui, tendit le bras droit et tira à 6 reprises. L'agent spécial lâcha son arme et s'assit en poussant un grognement. Il lança un regard curieux à Saul, comme s'ils avaient été 2 enfants en train de jouer à la guerre et que Saul avait triché. Haynes avait les cheveux en bataille, son gilet pendait sur son flanc, son visage était maculé de poussière. Sa jambe gauche était écarlate. 3 des balles tirées par Saul avaient dû se loger dans le gilet et le faire tomber, mais l'épaule gauche de Haynes était fracassée, et une balle s'était plantée dans sa gorge. Saul écarta un genévrier, s'accroupit à 1 mètre de Haynes, et vit des éclats d'os au niveau de sa clavicule. Il poussa le M16 de côté. Haynes était assis les jambes écartées, les souliers pointés vers le ciel. Son bras blessé pendait suivant un angle écœurant, mais sa main droite posée sur sa cuisse lui donnait un air détendu. Ses lèvres bien dessinées s'ouvrirent et se refermèrent à plusieurs reprises, et Saul vit du sang sur sa langue.
« Ça fait mal !»
dit Haynes d'une toute petite voix. Saul hocha la tête. Il se pencha au-dessus de l'homme pour examiner ses blessures, agissant par instinct professionnel autant que par habitude. Haynes perdrait certainement son bras gauche, mais sa vie pouvait encore être sauvée, à condition que les secours ne tardent pas, qu'on lui transfuse une bonne quantité de sang et qu'on l'évacue par hélicoptère dans les 20 ou 30 prochaines minutes. Saul pensa à Aaron, à Déborah et aux jumelles, à la dernière fois qu'il les avait vues, le Yom Kippour. Les enfants s'étaient endormis sur le canapé entre Aaron et lui, plongés dans leur discussion.
« Aidez-moi !» murmura Haynes. « Je vous en supplie !»«
Non !» dit Saul, et il lui tira 2 balles dans la tête. Nathalie gravissait le flanc de la colline, l'arme au poing, lorsque Saul descendit la ravine. Elle regarda le M16 qu'il tenait à la main, ses poches emplies de chargeurs et haussa les sourcils. « Mort !» dit Saul. « Pressons-nous. » 17 minutes s'étaient écoulées depuis l'arrivée de l'hélicoptère lorsque la fourgonnette redémarra.
« Un instant, » dit Saul, « tu allais jeter un coup d'œil au flic après la fusillade ?»«
Oui, endormi mais indemne. »«
Bien. Attends un peu. »
Saul descendit de la fourgonnette, le M16 à la main, et se tourna vers l'hélicoptère, à 12 mètres de là. Ses 2 réservoirs à essence étaient visibles. Saul régla son arme sur tir manuel et tira. On entendit un bruit évoquant celui d'une barre de fer frappant une bouilloire, mais il n'y eut pas d'explosion. Il tira à nouveau. L'air s'emplit soudain d'une forte odeur de carburant. La 3e balle déclencha un incendie qui engloutit le moteur avant de monter vers le ciel.
« Fonce !»
dit Saul en regagnant son siège d'un bond. Ils dépassèrent la Bronco. Ils venaient à peine de sortir de la clairière lorsque le second réservoir explosa, projetant la cabine dans les arbres et roussissant la carrosserie de la Bronco. Deux voitures noires apparurent sur les lacets de la colline, 400 mètres derrière eux.
« Vite !»
dit Saul comme il s'enfonçait dans les profondeurs de la forêt.
« On a guère de chance de s'en tirer, pas vrai ?»«
Non. Tous les flics du comté d'Orange et du comté de Riverside vont se lancer à nos trousses. Avant le lever du jour, ils ont établi des barrages sur cette route, fermé toutes les voies d'accès à l'Interstate 15 et envoyé des hélicos et des 4x4 fouiller les collines. » Ils traversèrent un petit ruisseau et franchirent un col à 110 km/h dans un nuage de gravillons. Nathalie négocia un virage serré, contrebraqua à la perfection et dit
« Est-ce que ça en valait la peine, Saul ?»
Il leva les yeux, renonçant à redresser la monture de ses lunettes.
« Oui. »
Nathalie hocha la tête et descendit une longue ligne droite, menant à une forêt encore plus sombre.